chaîne. Salut à tous. Alors ce soir, cette émission, on la dédicace à Wissam, Abdelila, Hakim et Aliziri et à tous ceux dont on oublie le nom et qui sont morts dans les commissariats français. Ainsi qu'à tous les ouvriers en lutte en Tunisie, au Chili, au Kazakhstan, en Chine, au Cameroun, au Nigeria, dans le monde entier, qui connaît des révoltes ouvrières. La guerre sociale, la guerre des riches contre les pauvres s'intensifie partout dans le monde. Le capitalisme est en crise, alors il lui faut encore plus nous détruire pour se restructurer. Mais son système mortifère n'a pas encore éliminé toute forme de vie. Des feux de révolte scintillent partout. Alors ce soir, on survolera quelques lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. Nigeria, Algérie, Cameroun. Et puis comme on aime bien les émissions sans queue ni tête, et que la révolte ouvrière n'est pas née d'hier, on vous passera une interview de Mathieu Léonard sur un livre sur la Première Internationale et la tentative d'organisation des ouvriers. ND Chaîne, salut à tous, salut à tous les enfermés, et j'espère qu'on va passer une bonne émission. Et je veux bien un peu plus de retour. Je rappelle que depuis peu, il y a un site internet ndchaîne.free.fr que vous pouvez consulter où vous retrouverez. Vous pouvez retrouver nos émissions sur les trois dernières années ainsi que la plupart des montages qui ont été faits à ce moment-là. Voilà.
ndchaîne.free.fr.
Radio Galère 88.4. Et comme on va aller donc se balader de révolte en révolte et de lutte en lutte, et ben on va commencer par un petit agenda comme on fait d'habitude, et notamment commencer par ce qui nous paraissait un peu le plus gros, sur un petit retour sur le procès qui a eu lieu contre les inculpés du centre de rétention de Vincennes, qui avait donc été accusé en 2008 d'avoir cramé le centre de rétention. Alors pour faire un petit retour, en fait, il y a eu des émeutes qui ont éclaté après la mort d'un ressortissant tunisien à l'intérieur du centre. Ça avait duré plusieurs jours. Le centre avait été détruit et quasiment totalement ravagé. Suite à ça, il y avait eu énormément donc, d'arrestations et de mises en procès. Voilà. Et 600 papiers avaient été jugés. Ils avaient pris de lourdes peines de 1 an à 3 ans ferme. Il y a eu un appel qui a été fait. L'appel est passé il y a la semaine dernière. Je crois que je ne fais pas de conneries. Ouais, voilà, la semaine dernière. Alors les peines ont été légèrement, mais très légèrement revues à la baisse, autant que ça n'a pas changé grand-chose. Donc elles vont maintenant de 6 mois à 2 ans et demi ferme, au lieu des 1 an à 3 ans. Voilà, donc ce n'était pas pour se réjouir d'une bonne nouvelle, mais juste pour passer des nouvelles. Et pour revenir donc là-dessus, il y avait eu donc les révoltes qui s'étaient passées à l'intérieur, mais il y a eu un énorme mouvement de solidarité qui s'était passé à l'extérieur du centre de rétention. Donc beaucoup de manifs, de liens qui étaient faits entre l'intérieur et l'extérieur pour faire passer ce qui se passait à l'intérieur, etc. Et à cette occasion, il y a eu beaucoup d'arrestations, notamment une arrestation de 2 personnes. Je m'embrouille sur les prénoms, je crois que c'était Bruno et Yvan, voilà, ouais. Qui s'étaient fait arrêter avec des clous et des fumigènes et qui avaient passé plusieurs mois en détention, prise en ferme en attendant une date de procès. Il y en a un d'eux qui était parti en cavale aussi à un moment, et je crois bien qu'il l'avait, s'était fait réarrêter une fois. Enfin, bref, peu importe pour les détails. Juste pour faire le lien à ce moment-là, que ces gens donc, ont été arrêtés et notamment inculpés sous la loi antiterroriste, qui était pareil au niveau du ordre symbolique, parce que ça voulait dire que toute solidarité avec des révoltés en lutte à l'intérieur d'une tôle ou à l'extérieur, et notamment avec les migrants, et ben, amenait à des répressions qui se passaient au niveau de l'antiterrorisme, donc des lois et des longues peines en vue. Ils avaient recoupé ça, donc les flics, avec d'autres histoires qui s'étaient passées, mais on ne reviendra pas exactement ce soir en détail dessus. Et voilà. Et notamment parce que samedi dernier, il y a eu une manif donc de soutien devant le CRA de Vincennes pour donc dénoncer l'enfermement des sans-papiers et puis pour marquer un peu le coup par rapport à cette histoire d'appel en procès. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment la manifestation s'est passée, mais il y a eu un peu les flics ont essayé de les empêcher de se rapprocher le maximum. Il y a eu un peu de course-poursuite, quelques échauffourées. Et suite à ça, il y a eu plusieurs arrestations. Enfin, il y a carrément même pas plusieurs arrestations. il y a eu une arrestation collective, donc je n'ai pas les chiffres exacts non plus, mais il y aurait une bonne centaine de personnes qui seraient fait arrêter d'un coup. Et cette centaine de personnes, donc arrestation collective, qui auraient été emmenées donc, dans les dépôts de la SNCF. Donc décidément, la SNCF et la RATP collaborent bien activement avec la police, et pas que pour les Roms. Voilà, c'est un petit souvenir historique, un petit clin d'œil, voilà. Et alors toutes ces personnes donc ont eu un contrôle d'identité, ça s'est pas toujours bien fait passer, craché dessus, enfin voilà, c'était un peu speed quand même, mais elles ont été libérées. N'empêche que sur tout ce groupe de personnes, salut, il y en a 4 qui ont été plus ou moins visées par la police comme ayant ou craché ou tapé un condé, parce qu'un condé serait pris quelques coups de tatane, et qui devaient passer en comparution immédiate aujourd'hui. Donc on est sûr qu'il y en a une qui est passée mineure à huis clos et qui a été libérée avec un report de procès en début février. Et pour les 2 ou 3 autres, parce que c'est toujours pareil au niveau des infos, comme on est en plein dedans, c'est jamais très très précis, mais 2 ou 3 autres personnes, on attendrait des nouvelles. Voilà, c'était donc pour faire un petit retour et notamment pour parler des 2 personnes dont je parlais avant qui sont poursuivies sous loi antiterroriste pour association de malfaiteurs. Et ben, il y a un procès qui a été fixé et donc qui serait dans les mois à venir, qui se déroulerait à Paris, qui regrouperait plusieurs histoires. Voilà, mais on aura l'occasion de vous en reparler. En attendant, je vous rappelle qu'il y a tout un dossier qui a été fait là-dessus, qui s'appelle « Mauvaises intentions 1 et 2 », qui est disponible sur InfoKiosque, notamment, et sur n'importe quel truc de recherche sur Internet, quoi. Voilà, ça, c'était pour vous introduire un peu l'actualité du moment.
Et du coup, si vous voulez avoir un peu des précisions sur ces trucs-là, il y a moyen d'aller voir sur Internet, notamment sur le site du Jura Libertaire. Ah, t'avais un autre truc.
Pour avoir un peu plus de détails. Ouais, sinon, j'ai 2-3 petites dates à annoncer dans la semaine, là, à Marseille. Alors, quoi ? Une petite musique ?
Non,
c'est fini. Alors, je finis. Alors, une petite musique. Un petit agenda. Ça se passe cette semaine, je vais dans l'ordre. Alors, ça se passe. C'est quand la date ? C'est vendredi 20 janvier. Ça serait vendredi 20 janvier qui arrive, et voilà. Ça se passe à la cantine associative Kairos, qui est donc au 15 rue Fongat, dans le 6e. Et c'est une projection du film If de Lindsay. Alors, je ne l'ai pas vu, je ne vous en parle pas, je ne dis rien. Qui sera suivi d'une discussion sur l'enfermement des mineurs et d'un repas à prix libre. C'est à partir de 19h, donc rue Fongat, au local Kairos, qui est une cantine associative. Et donc l'enfermement des mineurs, ça nous rappelle aussi un peu l'histoire de Toulouse, dont vous a parlé les semaines d'avant, où les choses n'avancent pas, où les personnes sont toujours en détention préventive, et que dès qu'on aura des nouvelles un peu plus fraîches, on vous en passera pour ceux qui ne savent pas trop choper les autres infos. Et donc ça, c'était pour ce vendredi qui arrive, et sinon, il y a... on parle de cette discussion-là ? Ouais, alors, en fait, on hésitait à en parler, parce que le livre est intéressant d'une certaine manière, et le thème, parce que ça parle de l'autonomie dans l'Italie des années 70. Alors le truc, c'est que ça se passe à un lieu qu'on trouve qui est un peu un lieu de merde, nous, à nos yeux. Voilà. Ça s'appelle quand même la librairie L'Arbre, je le dis. Hein, c'est au 38 rue des Trois Mages, dans le 6e, c'est sur la plaine. Voilà, ça fait partie de ces nouvelles librairies qui viennent d'ouvrir, hein, avec des bouquins chers, mais vachement intéressants, parce que ça fait penser à la gauche. Voilà, en attendant, sa discussion autour du bouquin, elle peut être intéressante, que ça parle d'un mouvement et d'un mouvement de lutte ouvrière dans les années 70, donc on ne va pas rappeler ici ce que c'est. Mais qui est intéressant, donc voilà, pour ceux qui s'en souviendront ou qui voudront y aller. Voilà. Et ça, c'était pour l'actu du moment. Et peut-être qu'on va passer une petite musique avant de passer sur la guerre sociale qui se passe hors de nos frontières. We'll be right back. moi je vais gueuler, hein. Donc toujours sur Radio Galère 88.4, sur Radio Galère 88.4, sur Radio Galère. Donc voilà, un petit coup de gueule avant de commencer cette émission. Avant de continuer cette émission, voilà, apparemment, bien, très bien, je sens qu'on est vachement bien accueilli ici, j'ai bien fait de venir, voilà. Donc j'ai appelé ça un peu de bon Dieu, ou du sens que diable, c'est pas du bourdieu, mais pourvu que ça en diable. On pourrait dire aussi que seuls les indécis iront au paradis. Voilà, et il nous faudra bien un jour choisir notre camp. Et il ne s'agit là ni de justesse, ni de raison, mais peut-être de bon sens. Mais avec certitude, du sens. Et il nous faut tous avoir un sens de la vie. Et pour choisir, on en a cinq. Alors, je vais me permettre une image, une sémaphore à trois couleurs pour venir éclaircir ma pensée, si je puis me permettre. Donc, je vais prendre l'exemple de cette tribu qui, après une longue marche à travers le temps, déjà parsemée de difficultés, de déserts et de jungles, de prairies et de pâturages, qu'une bouillonnante tribu perdue se retrouve à nouveau face à une montagne. Et elle est bloquée, apparemment depuis quelque temps, oscillant de discussion en palabre, de manière en mensonge, entre gravir la montagne ou la contourner, faisant de la vie des uns puis des autres rien, restant de fait sur place, laissant la place aux feignasses, après avoir rebroussé tous les chemins bien des fois. Je ne sais pas si tout ça c'est bien clair, mais la situation à cette heure-là se complique ici. Elle pourrit. Alors face à cette montagne, il y a les investis, qui depuis longtemps crient ensemble qu'il nous faut gravir cette putain de montagne, que de l'autre côté nous attendent de vertes vallées où nous vivrons comme des rois, qu'évidemment la route sera dure, très dure, que beaucoup d'entre nous n'y survivront pas, mais que la force et la discipline, l'honneur et le courage nous feront gagner ce combat avec bravoure vers la victoire, que notre survie tiendra dans l'obéissance et l'esprit de sacrifice, et que la sélection qui s'opérera nous rendra encore plus forts. Et que ce n'est pas le froid, le danger ni l'hostilité de mère nature qui nous arrêtera. On l'affrontera, on l'abattra, et à tous les indécis de nous rejoindre, poursuivre la route et s'offrir à l'histoire. Et une fois de l'autre côté, nous régnerons en maître, sûr que l'on aura mérité. On chantera, on priera à la mémoire de nos morts, promettant de ne jamais les décevoir. Waouh! Avec le ton chromé, galvanisé, tapant dans les plus instincts de la bête qu'est l'homme, qui a acculé mort. Mais il y a aussi les inspirés, qui depuis longtemps préparent ensemble un départ pour contourner cette putain de montagne, car de l'autre côté nous attendent de vertes vallées accueillantes, qu'évidemment la route sera longue, très longue, que nous allons tous souffrir, mais que l'envie et la solidarité, la sincérité et le courage nous feront traverser cette épreuve dans l'apprentissage vers l'accomplissement, que notre survie tiendra dans le partage et dans l'esprit d'équipe, que l'expérience que nous aurons vécue nous rendra encore plus forts, que la chaleur et les embûches ne nous arrêteront pas, et qu'avec l'attention de Mère Nature, on s'en sortira, on y arrivera. Et à tous les indécis de se joindre à nous pour prendre la route et d'écrire l'histoire. Et une fois de l'autre côté, nous vivrons ensemble sur ce qui nous sera offert. Et on chantera et on dansera au futur qu'on offrira à nous et à nos enfants, promettant de ne jamais décevoir. Waouh ! Le ton est convaincant, ni con ni vaincu, cherchant la passion de l'homme à ne pas être une bête. Donc voilà, on en est là. Pour l'instant, dans la tribu, les investis tentent d'enrôler quelques indécis. Quant aux inspirés, ils s'acharnent à les convaincre, les indécis. Mais seuls les indécis iront au paradis. Alors, pour quand est le départ, personne ne sait. Mais il semblerait que ce soit les indécis qui vont le précipiter. Mais une chose est sûre, vient de s'éteindre une ampoule à mon sémaphore. Une autre chose est sûre, on se retrouvera de l'autre côté. Un peu de bon sens, que dire.
Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande ta fable avec claque comme on se mêle sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers. La rage gravée, puis bien temps voulu. La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues. La rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs. La rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton. Aurait-il peur de la nature? La rage, car il a oublié qu'il en faisait partie des harmonies profondes. Mais dans quel monde la colombe est partie? La rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancals, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps.
La rage,
car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouclant.
La rage,
c'est tout ce qui nous laisse,
façon,
tout ce qui nous reste.
La rage,
car combien des notes finiront par retourner leur veste.
La rage,
de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression.
La rage,
car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tous leurs chants OGM stérilisent la terre.
La rage,
pour qu'un jour l'engrenage soit brisé.
La rage,
car trop lisse vérité sur leur écran télévisé.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de faux rêves pour placer leur rempart.
La rage,
car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté.
La rage, d'y croire et de faire en sorte que ça bouge.
La rage, d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush.
La rage,
car ce monde voit rouge, mais de grisailles entourées. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule.
La rage,
car c'est le pire que nous frôlons.
La rage,
car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon.
La rage,
car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mis au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux.
La rage,
trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité.
La rage,
car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges.
La rage,
car on prend aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe.
La rage du peuple, l'ébullition.
La rage, ouais la rage, ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive.
La rage,
d'aller jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
La rage,
rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain.
Inch'Allah.
D'une révolution
mondiale et spirituelle.
La rage du peuple,
la rage du peuple,
la rabia
del pueblo.
Parce qu'on a la rage,
elle qui fera trembler tes normes.
Parce qu'on a la rage,
a pris la populace et la rage est énorme.
Chaîne.
C'était Kenny Arcana.
Ah ouais? Putain, je la connais
ouais,
pas.
Ouais, vous saviez pas?
Non.
Voilà, et on a la rage aux quatre coins du globe. Et moi, je vais vous parler de ce qui se passe au Nigeria. Je ne vais pas m'étendre sur les conflits entre différentes communautés religieuses, chrétiens, musulmans. Il y aurait sûrement des liens à faire avec ce qui se passe sur d'autres, à d'autres niveaux, mais je ne suis pas assez renseignée sur la question. Par contre, je vais vous parler de la grève générale qu'il y a depuis le 9 janvier là-bas, qui fait suite à une série de manifs depuis le début du mois de janvier, parce que le prix du carburant a doublé là-bas du jour au lendemain. Parce que la subvention que l'État versait a été purement et simplement supprimée. Voilà. Donc le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique et c'est aussi le premier producteur du continent en pétrole. Et le pétrole, il a été découvert là-bas en 1956, dans les sous-sols du Nigeria. Et comme c'était une colonie anglaise, eh ben, c'est bien sûr les Anglais qui ont empoché la maille qui rapportait. Notamment deux compagnies pétrolières, Shell et British Petroleum.
Toujours les mêmes, quoi.
Voilà, toujours les mêmes. Shell, ils sont là depuis un moment, hein, 1956. Et donc, les Anglais ont bien profité de cette petite histoire jusqu'en 1960, où ça a été la déclaration d'indépendance du Nigeria. Depuis, la situation, elle a pas mal évolué. Le gouvernement, c'est devenu le seul propriétaire des ressources de pétrole. Mais il y a plein de compagnies internationales qui ont obtenu le droit de prospecter et d'exploiter les gisements. Pour citer que les plus connus, Agip, Elf, Esso et Shell, qui a gardé quand même 40% de l'exploitation pétrolière.
C'est comme à chaque fois là-bas où c'est les grandes compagnies pétrolières qui sont, enfin qui gèrent l'État local pour leur propre richesse et qui eux qui les mettent au pouvoir et ouais. qui les manipulent. Les pantins, c'est l'histoire de la France-Afrique, c'est l'histoire en voilà. terre avec le Nigeria, mais c'est toujours la même logique.
Et donc en fait, ces grandes compagnies exploitent les gisements contre le versement d'une bonne moitié quand même du fric que ça rapporte à l'État nigérian. Voilà, donc le pétrole il est acheté par les États-Unis, principalement l'Inde et le Brésil, et ça représente quand même 80% des revenus du pays. Et donc cette richesse, qu'est-ce qu'elle a apporté au Nigeria? Ben, tout le monde a voulu le pouvoir, donc il y a eu plein de coups d'État, et les Nigérians ils ont subi à peu près 30 ans de règne militaire. Donc voilà, corruption, détournement de fonds massifs. Donc les comptes en Suisse se remplissent. Et les poches des Nigérians se vident. Aujourd'hui, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté au Nigeria. Voilà, quoi d'autre ? Eh ben, la région du Delta du Niger, elle est quadrillée de milliers de kilomètres d'oléoducs et parsemée de puits et de stations de pompage. Des centaines de fuites chaque année, parce que le matos, il n'est pas entretenu et que voilà, donc du coup, ça fuit. Du coup, l'eau est polluée, le poisson a un goût de kérosène et les terres agricoles sont ravagées. Sauf que les gens, ils se laissent quand même pas toujours faire. Donc il y a notamment un groupe qui s'est créé dans le sud du pays en 2006 qui s'appelle le Mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger, le MEND. C'est un groupe armé qui lutte contre l'exploitation et l'oppression des peuples du Delta. Et plus particulièrement, du coup, contre les compagnies pétrolières et contre le gouvernement fédéral du Nigeria. Alors ils revendiquent régulièrement des attaques, des sabotages, des enlèvements. Et ils se félicitent d'avoir causé des ennuis considérables à la compagnie Shell, notamment plusieurs millions de dollars de pertes et dommages matériels. Et ils ont déclaré qu'ils allaient continuer chaque jour à ronger les infrastructures pétrolières au Nigeria jusqu'à ce que les exportations de pétrole atteignent le niveau zéro. Du coup, ben, ils ont subi pas mal de répressions. Là-bas, ça rigole pas trop, donc on leur a envoyé l'armée. Offensive aérienne et maritime sur les bases de la rébellion des villages du Sud. Et eux, ils ont riposté en attaquant les camps militaires. Donc bref, comme ça marchait pas trop, ben, le gouvernement a fait une offre d'amnistie. Et là, ça a un peu mieux marché. C'est-à-dire qu'en 2010, ben, ils ont acheté les gens. Il y avait plus de 20 millions d'ex-militants du MEND qui étaient inscrits dans des programmes de réinsertion, comme ils disent, et qui donc touchaient un peu de fric contre l'arrêt des sabotages. Voilà. Du coup, ça s'est un peu calmé, ça n'a pas complètement disparu, mais il y a eu un petit arrêt du MEND. Voilà, et Shell et autres bâtards ont pu continuer un peu plus tranquillement à empocher les millions, en collaboration avec les élites politiques nationales et sous le regard bienveillant des institutions financières internationales.
Pétrole oblige.
Les joies du capitalisme. Sauf que là, ils ont un peu exagéré quand même ces derniers temps, et que la rage, elle s'est répandue au Nigeria. La hausse du prix du carburant, c'est la goutte d'eau, ou d'or noir, n'est-ce pas, qui fait déborder le vase. Les gens, ils en ont eu ras-le-bol, et ils ont commencé par sortir dans les rues pour le montrer début janvier. Donc il y a eu des manifestations dans les principales villes du pays. Des milliers de gens qui ont tenté d'envahir ou d'incendier les bureaux des différents gouverneurs de l'État, de la Banque centrale, le siège d'un journal national, etc. Donc les gens, ils s'avancent en général assez vite... Qui sait qu'il faut attaquer dans ces cas-là. Et il y a des stations essence qui ont été mises à sac ou fermées de force. La police, elle a dispersé les manifs et il y a eu depuis début janvier environ 15 morts et plus de 600 blessés. Les autorités ont décrété un couvre-feu. Voilà, mais les manifs n'ont pas cessé à ce moment-là. La grève générale a même commencé à partir du 9 janvier. Du coup, eh ben, double mesure de l'État, intervention massive de l'armée. On parlait de la guerre la semaine dernière, et ben effectivement, quand ça commence à poser problème, ben ils envoient les blindés hein, pour disperser les manifs. Donc la guerre prend vite des proportions clairement militaires. Et donc, dans le même temps, puisque une bonne répression ne va jamais sans un petit peu de carotte avec le bâton, le gouvernement a annoncé une baisse de 30% du prix de l'essence, compte tenu des difficultés rencontrées par les Nigérians, ils nous disent. Voilà, donc du coup, genre, c'est un cadeau, quoi. Merci. Donc en fait, ça a quand même finalement augmenté, hein, mais seulement d'un tiers au lieu du double. Voilà. Et du coup, un peu de répression, un peu de maintenant finalement ça va s'arranger. Aujourd'hui, les syndicats ont suspendu la grève générale.
Aujourd'hui même.
Aujourd'hui même, je suis navrée de vous l'apprendre. J'aurais voulu que tout ça finisse sur une bonne nouvelle, mais non.
Non.
Voilà, ceci dit, ça ne veut pas dire que demain il ne se passera rien. Et on espère qu'en dehors des organisations syndicales, etc., les gens vont continuer à se révolter contre les conditions qui leur sont faites.
Et c'est même surtout très sûr, parce que souvent les gens ont pas attendu les syndicats pour se révolter. Voilà. Et par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que s'ils continuent de se révolter, on risque sûrement, surtout d'en entendre un peu moins parler, parce que ça sortira un peu des carcans des partis syndicats qui sont les organes de discussion avec leurs propres ennemis. Enfin, voilà.
Donc, solidarité et sabotage.
Ok. Et donc moi, pour continuer un peu sur les pays pétroliers et l'Afrique aussi, je vais parler d'abord de l'Algérie. Donc pareil, un pays qui vit essentiellement de la rente du pétrole. Et depuis le début du mois de janvier, il y a plusieurs révoltes qui ont éclaté, notamment dans des grandes villes pétrolières, dont je ne vais pas me risquer à dire le nom. Et donc, dans ces trois villes, les gens protestent essentiellement parce qu'ils n'ont pas de boulot et pas de fric, alors que l'État algérien est relativement friqué. Sachant que le taux de chômage en Algérie est d'environ 20%, donc ça, c'est les chiffres officiels. Et même dans les chiffres officiels, il peut atteindre 50% à peu près chez les jeunes. À Larouate, qui est une de ces villes, les manifestants protestent également contre une espèce d'attribution de logements sociaux. Alors, le Bouteflika, le président algérien, avait annoncé, suite aux protestations l'année dernière, une construction de beaucoup de logements sociaux. Et donc là, dans cette ville, apparemment, tous les logements sociaux qui ont été construits ont été attribués à des potes du pouvoir. Et donc, il y a une grosse protestation, une grosse manifestation, qui s'est assez mal fini, enfin qui a été fortement réprimé, avec une trentaine d'arrestations et une dizaine de blessés. Quoi. Voilà. Donc les flics apparemment étaient ultra violents, beaucoup de passages à tabac, c'était assez trash. Donc voilà pour un peu l'Algérie. A priori, là, ça s'est un peu calmé sur les derniers jours.
En tout cas, vous pouvez toujours. C'est bon, si tu m'as. Oui. Que toutes les infos qui viennent d'Algérie, Nigeria, on a pris pas mal d'infos sur le site juralibertaire.org, noblog.org, et vous pouvez suivre un peu tous les jours, il y a les infos qui arrivent de là-bas, et c'est à suivre, et notamment parce que vous tomberez sur les infos qui viennent du monde entier, comme je le disais dans le générique, où en Tunisie, il y a encore des grosses bagarres dans les bassins miniers, parce que c'est pas fini, c'est rien qui est fini là-bas. Au Chili, il y a des gens qui se font tirer dessus tous les jours aussi. En Bolivie, pareil. Au Kazakhstan, c'est pareil. On n'entend pas parler un mot parce que peut-être la France n'a aucun rapport avec là-bas, mais n'empêche que c'est un peu dans les territoires où il y a des pipelines et compagnie, les ouvriers qui se font tirer dessus comme des lapins tous les jours. En Chine, c'est la même depuis 2 mois. Il y a des centaines de morts. Et voilà, des trucs. Donc c'est des trucs à suivre et on vous en reparlera. Et en tout cas, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi bête que ça, mais rien que d'en parler, un peu de solidarité pour voir ce qui se passe un peu hors de nos petites frontières. Ou d'en voir, en tout cas, dans des pays où l'indignation n'aurait aucune place.
Ouais.
À bon entendeur, salut.
Et du coup, je vais parler aussi d'un mouvement qui a eu lieu au Cameroun, alors qui, cette fois, n'a pas à voir du tout avec le pétrole, mais avec la canne à sucre. Et donc, c'est dans une usine, c'est une histoire assez hallucinante. Donc, apparemment, dans cette usine, depuis quelques années, les ouvriers recevaient une espèce de prime en forme de viande de bœuf. À la fin de chaque année. Bon, cela dit, cette prime, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, il fallait quand même. Il y avait une partie de leur salaire qui était ponctionnée pour avoir cette viande. Enfin,
c'est la sécurité sociale là-bas. Quoi.
Et du coup, cette année, leur entreprise qui s'appelle la Sosucam a refusé de leur filer cette viande. Donc, bon, en gros, quand même, c'était 14 bœufs, ce qui ne doit pas représenter une somme folle. Mais donc les patrons ont refusé de filer ça aux ouvriers. Et les ouvriers sont partis en... Ils ont tout brûlé un peu. Donc ils ont brûlé 30 véhicules qui appartenaient à l'usine, apparemment qui étaient neufs, hein, et qui sont réduits à un tas de ferraille, disent-ils. Et pas mal d'équipements de l'usine qui servent à la récolte de la canne à sucre. Ensuite, ils sont rendus dans le foyer de l'usine, ils ont vidé le bar et ils ont mis le feu au foyer. Et ils ont fini en se rendant en ville et en vidant un autre bar de la ville qu'ils ont mis à sac également. Donc on leur a envoyé les keufs et ça s'est terminé, enfin qui ont tiré à balles réelles sur eux. Il y a eu deux manifestants morts. Donc voilà, et bon, par la suite, donc par la répression policière, l'usine a également décidé de virer 180 ouvriers, donc comme mesure disciplinaire, quoi. Et donc là, je sais pas trop, il y a des infos un peu contradictoires, apparemment il y en aurait 80 qui auraient déjà été virés, et les autres sont en attente.
Bah, le truc, c'est que t'as l'impression qu'ils se permettent de faire ça parce que tu dis que là-bas, il y a tellement de gens qui demandent d'avoir une place, qui peuvent en virer 200 d'un coup parce qu'ils savent que le lendemain, enfin, c'est vraiment l'espèce de chantage bien capitaliste qu'on voit tous les jours et de ferme ta gueule ou je te fume et de toute façon, derrière toi, il y en aura plein d'autres tellement les gens ont faim.
Mais en même temps, s'il y a une chose dont on peut peut-être se féliciter, c'est que ça, apparemment, il y a une perte matérielle de 1 milliard de dollars donc pour le refus de 14 bœufs.
Ouais, 20 milliards pour 14 bœufs, ouais, c'est pas mal. Bon rapport qualité. Non,
1 milliard de francs CFA, pardon. 1 milliard de francs CFA.
Ah ouais, c'est plus rien alors.
C'est beaucoup moins, mais.
Ça vaut plus rien.
C'est ça. Pas grand chose.
La blague, elle est ratée. Petite musique ?
Ouais, une petite musique.
Et on va faire une petite transition musicale avant de continuer sur la G. La sortie, à venir.
Maintenant dans ta cuisine, la vie tu vas plus loin. Ce que tu fais est calculé pour espérer qu'elle s'échappe.
Salut. Vous êtes bien sûr N des chaînes, donc un petit peu plus. Et bah pour continuer, en fait, je vais vous parler de la sortie, enfin pas de la sortie en tout cas, mais d'un site que j'ai vu cet après-midi et qui a un texte qui s'appelle Qui sommes-nous, que je trouve intéressant. Le site, il s'appelle Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc je vais vous lire une partie en tout cas de leur présentation et qui correspond en tout cas, moi je trouve pas mal en rapport avec les choses dont on parle aujourd'hui. Depuis 2008, nous sommes rentrés dans une crise du capitalisme d'une ampleur comparable à la crise de 1929. Si une série de phénomènes déjà bien présents, endettement massif, pauvreté, chômage, etc. s'accélère, la perspective de changements importants et rapides de notre mode de vie s'ouvre dans une mesure qu'il est encore difficile d'estimer. Une chose est sûre, le business doit continuer. Si la crise de 1929 a conduit à la plus grande guerre de l'histoire, une autre guerre est maintenant au programme de la relance. La guerre contre le prolétariat. Défini en fonction de sa place dans le système productif, le prolétariat forme une catégorie sociale contrainte de vendre sa force de travail pour survivre. C'est dans une attaque mondiale sans précédent contre les prolos que le capitalisme peut sortir de la crise. Pour ce faire, il doit réduire drastiquement le coût du travail. C'est ce que nous pouvons déjà voir en Grèce et qui tend à se généraliser à d'autres pays. Le champ des possibles se réduit de plus en plus, c'est le capitalisme ou nous. Les révolutions qui ont commencé au printemps 2011 ou encore la colère des Grecs sont un début de réponse. Une autre réponse pour une partie des prolos qui peut devenir importante consiste à s'indigner, à réclamer un capitalisme alternatif où les banques seraient toujours des marchandes de pognon, mais publiques, où les salariés seraient toujours exploités par les patrons, mais dans la dignité, etc. etc. Le tout sous l'égide d'un État social, socialiste pour les plus énervés, et bien vieillant. Nous partageons avec le représentant de ce courant, qu'à défaut nous appellerons démocratiste, la conviction que le prolétariat doit lutter et résister aux politiques d'austérité. Mais nous ne voulons en aucun cas fournir de plan de gestion de crise, d'urgence ou tenter de gérer le capital. Le bateau coule et nous n'entendons ni colmater les brèches, ni gratter une place dans les canaux de sauvetage réservés aux classes dominantes. Nous comptons toucher la terre. Bien sûr, nous ne pensons pas que le capitalisme se laissera vaincre sans rien dire. Aucune réforme, aucun moyen légal ne supprimera ce qui est inscrit dans le code génétique du capitalisme, l'exploitation. Dans cette période de crise, la seule solution pour le prolétariat est de détruire le système actuel, le capitalisme. Nous refusons de lutter pour l'établissement d'une quelconque période de transition qui équivaudrait à gérer différemment le capital, qu'il soit prolétarien, État prolétarien, autogestion généralisée, etc. Dans l'affrontement entre le prolétariat et le capital, nous préconisons l'asphyxie de l'adversaire et laissons les capitalismes faire joujou avec leur monnaie et leur or devenu inutile si la société ne leur donne plus de sens. Avec leur monnaie et leur or devenu inutile si la société ne leur donne plus de sens. Toutefois, nous sommes loin de préconiser l'immobilisme. Nous tentons d'établir une stratégie conduisant au communisme, c'est-à-dire à l'abolition de la propriété privée, du salariat, de l'État et de la valeur. Abolir le salaire, c'est supprimer la laisse qui nous tient aux capitalistes. C'est sur les cendres du capitalisme que nous construirons une société dans laquelle nous déciderons de produire selon nos besoins définis collectivement. Le fond de notre pensée et de notre message est assez simple, en fait. On peut dire ce que l'on veut, mais tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà. Alors, le site, je vous conseille d'aller le voir par vous-même. Il s'appelle « Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas pour tout le monde ». Donc, c'est une phrase qui nous parle quand même, c'est ici. Voilà, les mots et l'approche est peut-être pas toujours évidente, mais en tout cas, elle porte à réflexion. Et alors, le site, je vous donne l'adresse. C'est pas si facile, l'adresse, mais c'est tanquil, T-A-N-T-Q-U-I-L, donc tanquil.net. Voilà, sinon vous pouvez le trouver sur d'autres sites d'infos aussi qui s'appellent genre Des Nouvelles du Front, vous avez le lien dessus qui est un site pas mal pour choper des infos sur ce qui se passe dans le monde parce que c'est la crise voilà. Et pour rebondir, parce que j'ai pas encore rebondi aujourd'hui Et j'ai trouvé un truc pour rebondir dessus, ça vous manquait, je suis sûr. Voilà. Et ben, je vous parle de la sortie d'un bouquin de quelqu'un qui s'appelle donc Léon de Matisse. Donc, on utilise souvent les textes que l'on chope sur son blog et dans ses différents ouvrages, qui va sortir un livre qui s'appelle Crise. Non, pas Crises. Crise, un livre de Léon de Matisse qui paraîtra prochainement aux éditions Entremonde. Donc, c'est pareil, c'est un truc assez intéressant quand même. Voilà. Alors, je vous lis la petite présentation. La petite. En octobre 2008, le système financier mondial a failli s'écrouler. Depuis, la crise financière s'est muée en une crise de la dette publique qui s'aggrave de semaine en semaine. Le fonctionnement de l'économie, à l'heure actuelle, repose sur la croyance en la capacité des États à maintenir la valeur de la valeur. Que cette croyance s'effondre et le système périt. Crise saisit l'occasion de la crise pour poser une question que les économistes évitent toujours. Pourquoi l'argent vaut-il quelque chose plutôt que rien ? Répondre à cette question, c'est s'interroger sur les fondements de la valeur dans le capitalisme. À l'heure où beaucoup s'indignent de la situation actuelle, en croyant naïvement que l'on pourrait revenir à l'économie régulée des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, il faut rappeler que le rapport social capitaliste ne peut être combattu qu'en s'attaquant à sa racine. Tant qu'il y aura de l'argent, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Voilà. J'adore ce que vous faites. Hein ?
Μάθημα πρώτο. Leçon 1. Η κοινωνική εξέγερση. L'insurrection sociale. Μέρος α. Λεξιλόγιο. Section A. Vocabulaire. Ένας μπάτσος. Un flic. Ένας μπάτσος. Μπάτσος. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Μπάτσος. Πληθυντικός αριθμός. Pluriel. Οι μπάτσι. Les flics. Μπάτσι. Ένα γουρούνι. Un cochon. Ένα γουρούνι. Γουρούνι. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Γουρούνι. Πληθυντικός αριθμός. Pluriel. Τα γουρούνια. Les cochons. Γουρούνια. Ένας δολοφόνος. Un assassin. Ένας δολοφόνος. Δολοφόνος. Επαναλάβατε, répétez après moi, δολοφόνος. Πληθυντικός αριθμός, pluriel, οι δολοφόνοι, les assassins, δολοφόνοι. Μέρος β, η φράση της ημέρας. Section B, la phrase du jour. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Φλικ, κοσόν, assassin. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. Επαναλάβατε. Répétez après moi. Μπάτσι, γουρούνια, δολοφόνοι. 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 Μπάτσι, γουρούνια,
chaîne des chaînes 88.4, donc on arrive à la deuxième partie de l'émission avec une interview de l'auteur de l'émancipation des travailleurs qui est un historique sur la première internationale et qui est paru à La Fabrique. Thank you.
lecture de cette histoire de la Première Internationale, donc qui s'échelonne entre 1864 et bon, la scission a lieu en 1872, mais l'expérience se prolonge un peu jusqu'à la fin des années 70. Parce que voilà, c'est un sujet qui m'intéressait, bien évidemment, et puis on s'est aperçu avec l'éditeur que il y avait un manque d'un ouvrage qui puisse un peu replanter un peu tous les repères, tout le décor de cette expérience qui est assez unique, qu'on estime souvent, suivant les courants politiques, que ce soit le communisme, l'anarchisme, le socialisme, le syndicalisme, un peu fondatrice de toutes ces tendances, finalement. Et donc, c'est un moment d'un ferment d'idées, un ferment de débats et aussi d'une confrontation à l'histoire, à une accélération historique. C'est-à-dire, on a tendance un peu à isoler les événements, la Commune de Paris, le marxisme, l'anarchisme, etc. Et donc, moi, j'ai voulu plutôt recentrer autour de l'international, qu'est-ce que ça a pu, à quoi ça a pu coïncider cette organisation, hein, cette tentative d'organisation, du moins. À quel processus, à quelle démarche, à quelle envie aussi ça a pu correspondre, malgré les dissensions, malgré les divisions finalement qui vont la faire éclater. Mais j'ai voulu reprendre un peu l'histoire par la base, par les acteurs eux-mêmes d'ailleurs. N'étant pas moi-même à proprement parler un militant politique, hein, ni un historien, j'avais une position de dire bon, il faut remettre les choses dans un contexte pour comprendre. Réellement, qu'est-ce qui anime les gens, qu'est-ce qui motive les gens pour se mobiliser, et finalement présenter, alors le mot est peut-être un peu galvaudé, mais une alternative, on va dire, à la société existante, quoi, ou un dépassement, finalement, de l'état existant des choses. Quoi. Alors l'histoire de l'international, c'est l'histoire d'une rencontre où la classe ouvrière est affaiblie, n'est pas organisée en tout cas, n'a pas de force pour contrer l'organisation capitaliste. Il y a eu 20 ans, enfin une quinzaine d'années auparavant, avant la formation de l'Internationale, une vague de répression énorme en Europe en 1848, qui concerne aussi bien des mouvements dits nationaux, c'est-à-dire en Pologne par exemple, en Hongrie, etc., des tentatives nationales qui ne sont pas à proprement parler prolétariennes, mais de vouloir acquérir une indépendance contre les empires, hein, puisque l'Europe à ce moment-là, c'est l'Europe des alliances ou des rivalités entre les empires, entre des autocraties, etc. Mais il y a aussi l'émergence de cette classe ouvrière en 48, qui, à Paris notamment, c'est l'événement le plus saisissant, se fait massacrer par les troupes de la Seconde République. Donc il y a déjà cette idée de la classe ouvrière trahie, ou en tout cas par la République. De là viennent toute une nébuleuse de proscrits, de révolutionnaires qui voyagent en Europe, qui se retrouvent souvent en Angleterre, parce que l'Angleterre est à ce moment-là le seul pays où on peut bénéficier de quelques libertés politiques, surveillées hein, évidemment, mais en tout cas où les proscrits peuvent bénéficier d'un peu d'asile, qui permet, par exemple, à des noyaux d'ouvriers allemands exilés, ou même d'ouvriers, de travailleurs, hein, exilés politiquement ou exilés économiquement, de fonder des associations. Et puis qui permet à ce moment-là aussi aux trade unions, c'est-à-dire les syndicats anglais, de commencer à se développer. Mais pas auparavant, au début dans la première moitié du 19e siècle, ils ont dû utiliser des moyens beaucoup plus violents, etc., pour faire entendre, en quelque sorte, les droits des ouvriers à ce moment-là, et même le droit de s'organiser. Donc il y a cette force-là, on peut dire qu'il y a une force en Angleterre qui s'organise autour des trade unions, avec des grèves à la fin. Il y a une grande crise économique en 1857, et peu après, il y a des grèves à nouveau qui remettent la question sociale sur le devant de la scène. Et notamment, il y a une grande grève du bâtiment en 62, où les ouvriers anglais s'aperçoivent que au moment où ils font grève, le patronat fait venir de la main-d'œuvre du continent, des Français, des Belges ou des Allemands, pour casser les grèves en quelque sorte. Donc, ils en déduisent que les ouvriers du continent doivent s'organiser de la même façon qu'eux, doivent revendiquer les mêmes droits qu'eux, pour être finalement être dans une situation de rapport de force égale contre le patronat. Donc c'est là où les trade unions lancent des appels aux Français, aux ouvriers français, etc., en disant rencontrons-nous, organisons-nous, nous devons faire front, nous devons être solidaires dans chaque pays pour pas que le patronat nous divise, pour pas que le patronat utilise une main d'œuvre contre une autre. Donc il y a cette tendance-là qui est sûrement à l'initiative de la conférence, du meeting de St. Martin's Hall le 28 septembre 1864, qui va être fondateur de la Première Internationale. Mais il y a d'autres composantes, puisque la Première Internationale n'a pas été impulsée par une doctrine, par un parti doctrinaire, directif, centralisé, mais plus par l'agglomérat de tendances, d'expériences, d'ouvriers, de la classe ouvrière, suivant les pays, ils n'avaient pas la même organisation, on va dire. Alors il y a les Français qui viennent en fait en renfort, qui sont eux soumis à beaucoup d'interdits et de répressions dans le régime sous le Second Empire, mais qui là encore essaient de s'organiser pour acquérir une indépendance par rapport aux républicains et de s'auto-organiser finalement, notamment à travers des sociétés de secours mutuels qui me permettent aux ouvriers, il n'y a pas de protection sociale à l'époque, il n'y a pas de couverture sociale généralisée, tout ça, ça n'existait pas. La main gauche de l'État, comme on dit, n'intervient pas pour pacifier les rapports sociaux. Au contraire, enfin, il n'y a que la main droite, il n'y a que la force répressive de l'État contre les ouvriers. Mais les ouvriers se disent donc, organisons-nous nous-mêmes, c'est une vieille idée, hein, ça ne date pas de cette époque-là, mais en réseau de solidarité mutuelle, en société ouvrière, par corporation, ou par etc., tissons des liens entre nous pour non seulement subvenir à une protection, enfin, mais aussi pour supplanter le salariat, l'organisation sur un mode salarial, en créant nous-mêmes des coopératives. Ça, c'est l'idée d'ouvriers comme dits proudhoniens, hein, qui vont constituer la première branche française de l'international, qui disent, si on ne veut plus subir le joug patronal, on doit s'organiser en coopérative. Donc c'est un peu à ce moment-là qu'émergent ces idées-là aussi de mutualisme et de coopérative, qui auront une existence après, jusqu'à aujourd'hui, hein, puisque la coopérative, ça revient un peu comme un son de cloche contre la crise, contre les délocalisations. Donc il y a ces idées assez simples, hein, assez simplistes même, on va dire, que contre l'économie capitaliste, il faut une économie des travailleurs, quoi. Donc c'est la deuxième composante, ce sont ces ouvriers proudhoniens qui sont, pour le coup, très ouvriéristes, c'est-à-dire ils veulent pas que des théories politiques interfèrent sur l'organisation ouvrière, ils veulent que ce soit une organisation avant tout sociale et économique, donc ils veulent pas se mêler de la politique. Certains, plus révolutionnaires en France, comme les blanquistes, soupçonnent cette tendance mutualiste d'être à la solde du pouvoir, finalement, puisqu'ils ne préconisent pas une voie violente révolutionnaire. On peut dire qu'il y a une troisième tendance, qui est une tendance éclatée, qu'on retrouve en Grande-Bretagne, qu'on retrouve en Allemagne et qu'on retrouve en Suisse, qui est une tendance, on va dire, de communistes allemands. Des gens qui ont l'expérience de la Ligue des communistes de 1847 et qui voilà, soit sont proscrits, soit sont en Allemagne, etc. L'Allemagne est aussi très répressive par rapport aux tentatives d'organisation ouvrière à ce moment-là. Mais ce meeting, c'est pas une rencontre doctrinale, c'est une rencontre un peu platonique, en disant, pleine de bonne volonté, en disant les ouvriers doivent s'unir, les gouvernements tyranniques sont unis, les capitalistes sont unis, à notre tour aussi d'être unis pour constituer une force, pour dépasser voilà, une situation d'exploitation, etc. Pour constituer une force contre le capitalisme, il faut s'unir. Et pour s'unir, il faut débattre. Donc il y a une idée qui est absolument pas verticale, hein, qui est plutôt une idée d'échange, de correspondance et de statistiques. Une mission que se donne la Première Internationale au départ, c'est d'étudier, c'est l'étude ouvrière, c'est d'étudier les conditions de vie concrètes et réelles des ouvriers, et d'en tirer finalement quelque chose comme un programme pour répondre aux besoins de la classe ouvrière. Donc il n'y a pas cette dimension révolutionnaire, elle n'apparaît pas au début. Oui, au départ, l'Internationale ne prétend pas déclencher quoi que ce soit, prétend soutenir les revendications des ouvriers, notamment des revendications de baisse des journées de travail, hein, de passage de 12 heures à 10 heures, puis à 8 heures. Ça va être, 8 heures va devenir le slogan. Alors il faut voir aussi en parallèle que c'est une période où les choses changent beaucoup. Aux États-Unis, il y a la guerre de sécession qui vient de se terminer, qui a aboli l'esclavage, hein, mais bon, qui a conforté la position de l'industrie du Nord, quoi, des capitalistes industriels du Nord, mais qui a permis aussi à la classe ouvrière d'accéder à la promesse, en tout cas la promesse, des 8 heures. Donc ça correspond en Europe à une espèce d'espoir comme ça. En Russie, qui est vraiment la Russie, le pays qui est chez ceux qu'on appelle les démocrates à l'époque, les révolutionnaires européen, qui est montré en exemple du despotisme le plus odieux, quoi. Ils viennent juste d'abolir le servage, quoi. Donc il y a ces choses-là qui font que, à nouveau, il y a la perception de la possibilité d'un mouvement comme ça d'ampleur. Enfin, les francophones disent qu'il faut, oui, et qui viennent pas de l'industrie, qui viennent pas du secteur industriel, mais qui viennent plutôt de l'artisanat, des vieux métiers. Hein. Il y a une jonction entre les vieux métiers, un prolétariat d'artisans en fait, et le prolétariat industriel. Il y a même encore un fossé entre les deux, hein, parce que le prolétariat artisanal est plus cultivé, surtout à Paris, puisqu'il est dans des secteurs du livre, du luxe, de l'orfèvrerie. Notamment, hein, donc il a constitué une forme d'élite de leaders ouvriers qui sont lettrés, qui sont cultivés, qui sont souvent autodidactes, mais qui ont accès à la pensée, quoi. Tandis que le prolétariat industriel n'a pas le temps pour ça, quoi, puisqu'il est accablé par l'exploitation industrielle, quoi. La division du travail est beaucoup plus forte, la mécanisation et la discipline, donc lui permet pas de d'élaborer des sociétés de pensée. Pour ça, les Français développent la théorie de la coopération, c'est-à-dire que finalement le renversement il doit se faire à la base, que les ouvriers doivent se réapproprier l'outil de travail, et comme ça on passe d'une économie capitaliste à une économie du travail. Donc c'est une vision un peu schématique, un peu simpliste. Certains ouvriers français proudhoniens sont méfiants par rapport aux grèves, en disant que la grève, finalement, elle peut contribuer à détériorer les conditions des ouvriers puisqu'elle les améliorerait. Et donc, ils vont être confrontés à quelque chose qui va les démentir, cette position-là, puisque à la fin des années 60, se développent plusieurs saisons de grève, en 67, 68, jusqu'en 70, 1870, où les grèves vont se faire de plus en plus fortes, de plus en plus violentes, et vont exiger des internationalistes, des internationaux, de renforcer les liens de solidarité entre les ouvriers européens, essentiellement.
Il y avait un autre truc aussi dont tu parlais, c'était pour empêcher que les patrons embauchent des jaunes de l'extérieur, et ça se passait comment ?
Oui, alors voilà, quoi. Il y a pas énormément de cas, mais il y a eu des cas où, en Angleterre notamment, et vers Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, où, prenons l'exemple de Frumeau, les mineurs se mettent en grève contre une discipline accrue, une division du travail accrue. C'était des mineurs charbonniers, c'est-à-dire qui étaient saisonniers à l'époque. Et donc, à ce moment-là, les patrons des mines veulent les mettre à un régime de salariat à temps plein, et donc augmentation de la durée du travail, etc. Donc les mineurs protestent contre ça, et à ce moment-là, le patronat fait venir une main-d'œuvre du Piémont, avec famille et enfants, etc. Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines aussi à ce moment-là. Et il caserne ces ouvriers, ces travailleurs italiens. Enfin, il les parque dans une caserne, etc. Donc à ce moment-là, la position, évidemment, le réflexe immédiat, la réaction des ouvriers, c'est de dire ce sont des casseurs de grève, ce sont des jaunes, etc. Et là, par moment, les internationalistes ont pu intervenir en disant effectivement, il ne faut pas qu'ils viennent casser le mouvement social, mais pour cela, il faut les amener aux mêmes revendications que nous. En leur disant, vous avez les mêmes droits, vous devez vous battre pour les mêmes revendications, finalement. Et les considérer comme des travailleurs à part égale. Donc, ce qui n'empêche pas, par moment, des manifestations xénophobie, hein, mais par la suite, il y aura des grandes crises xénophobes, notamment dans le Sud, avec Mortes, etc., entre travailleurs français et travailleurs italiens, travailleurs locaux et travailleurs italiens, qui iront jusqu'à des lynchages, hein. Et c'est un moment aussi où l'influence internationale a disparu. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'à ce moment-là, dans cette période-là, de la fin des années 1860, même s'il y a quelques manifestations de chauvinisme ou xénophobie sociale, ouvrière, l'international essaie de jouer une carte en disant on a tous les mêmes intérêts, finalement. Ça veut dire qu'à un moment, l'international va réussir à faire coïncider une communauté d'idées et une communauté d'actions. Ça veut dire qu'un ouvrier, un gréviste mineur du côté de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, va savoir qu'il peut avoir le soutien d'un ouvrier du bâtiment de Genève ou d'une association de cordonniers de Londres ou de typographes de Paris. Donc ça va créer un imaginaire, parce que même si les moyens, finalement, mis en œuvre, l'argent, il n'y aura jamais une caisse énorme, même si les capitalistes, à un moment, imaginent que l'international a constitué un trésor de guerre infini, non, l'international reste une organisation assez, assez faible, assez démunie, finalement. Mais par moment, ces grèves-là vont avoir une répercussion, un écho européen, et vont pouvoir faire imaginer aux ouvriers que l'international est une espèce de lien de solidarité qui les aidera et leur permettra de mener leur grève jusqu'au bout. Et parallèlement, le propos de l'international se durcit, c'est-à-dire que on passe d'une phase, on va dire, coopérative, où c'est de la coopération, à une phase collectiviste. C'est-à-dire que les débats à travers les congrès vont devenir de plus en plus vont s'axer sur la nécessité de collectiviser les moyens de production. C'est-à-dire essentiellement les transports, les routes, les mines et aussi la propriété foncière. Sur cette histoire de collectivisme, les débats vont mettre en lumière un clivage, en fait, entre des ouvriers qui pensent que, là encore, c'est par l'auto-organisation des ouvriers qu'on arrive à la collectivisation, c'est-à-dire c'est les groupes d'ouvriers par secteur, par commune, qui vont réorganiser la production. À la base, et ceux qui pensent que c'est en prenant les leviers de l'État, c'est-à-dire en partant à la conquête du pouvoir politique, que on va redistribuer les cartes, on va nationaliser, on va collectiviser, etc. Donc là-dessus, il y a une opposition assez forte, sachant que pour beaucoup, dans l'esprit ouvrier, l'État, enfin même en France notamment, hein, chez les Proudhoniens, mais pas que, hein, chez des gens qui ont été nourris un peu aux idées de Proudhon, mais il y a cette idée que l'État ne peut être finalement qu'une force de domination. Donc quand bien même il se ferait au nom de la classe ouvrière, il constituerait à nouveau une autre forme de prise en main par des gens qui représentent, des représentants de la classe ouvrière, mais qui ne seraient pas la classe ouvrière, puisque l'État spécialise, l'État divise. Et donc l'État, finalement, c'est forcément un risque de despotisme à un moment, et un risque de confiscation. Mais en tout cas, on voit qu'à ce moment-là, se posent concrètement pour les ouvriers deux options. Oui, il faut effectivement déposséder les capitalistes, mais comment le faire, quoi. Donc cette idée, elle va être reprise par Bakounine, qui arrive à l'international, dans l'international un peu tardivement, qui arrive en 69. Et qui reprend à la fois cette idée proudhonienne, etc., qu'il ne faut pas rien concéder à l'État, ni au capitalisme, mais en plus avec une dimension là, qui introduit une dimension révolutionnaire. Il faut passer à un stade de confrontation et d'insurrection. Là où, par exemple, en Angleterre, on ne considère pas du tout d'option insurrectionnelle. On pense que c'est par des mouvements de mobilisation, de forcer par la mobilisation, la manifestation, l'État à adopter des réformes, qu'on arrive à œuvrer pour la classe ouvrière. Il y a des divergences, il y a même des choses qui sont relativement inconciliables. Ça sera aussi un des aspects de la scission en 1872. Mais en tout cas, il y a un processus de débat, de confrontation d'idées, etc., qui joue en plein, d'autant plus que la situation... devient de plus en plus... la situation historique s'accélère. Il y a non seulement des grandes grèves, mais il y a une guerre qui se profile, avec la guerre franco-prussienne. Et il y a finalement... L'international va aussi être confronté avec à une des plus grandes insurrections du XIXe siècle, qui est la Commune de Paris. 72, a lieu le congrès de la Haye, qui va scissionner, en fait, en gros, ce qu'on va appeler les marxistes, même si le mot marxiste est finalement antidaté, parce que c'est anachronique presque, parce que...
C'est les autoritaires et les anti-autoritaires.
Oui, voilà, on parle d'autoritaire, anti-autoritaire, on parle de centraliste et de fédéraliste. Et donc, il va se scinder en deux internationales. Il va y avoir une internationale que Marx, dont le Conseil Général a été muté à New York, finalement qui va s'éteindre parce qu'elle devient inerte, et elle ne correspond plus du tout à la réalité, même il n'y a plus aucun mouvement social, aucun mouvement ouvrier qui l'a fait fonctionner. Les trades unions sont désertés, ils ont été effrayés par la Commune de Paris, et les trades unions, leurs dirigeants, sont de plus en plus séduits par les sirènes de la politique, donc ils sont attirés dans le giron des libéraux anglais, quoi, et ils vont faire carrière au Parlement. En Allemagne, le Parti social-démocrate a été constitué avant, en 1869, et il est tenu un peu... Il est toléré, mais il est aussi tenu... Enfin, on laisse un peu par Bismarck, hein, et Bismarck, lui, qui est un pragmatique, imagine qu'il faut effectivement céder un peu du champ aux revendications sociales des ouvriers pour justement éviter le socialisme, pour que les ouvriers allemands soient loyaux vis-à-vis de l'État plutôt que vis-à-vis des partis socialistes, ce qu'on appelle le Sozialstaat dans les années 1880 en Allemagne, va jouer la carte de la pacification sociale. Mais parallèlement, le parti socialiste social-démocrate allemand va monter en puissance aussi également, quoi. Mais sur des aspects plus très modérés, enfin très en jouant le jeu parlementaire, quoi. Oui, donc il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'internationale officielle, soi-disant officielle, quoi. Ce qui fait, les Belges vont se retrouver du côté des anti-autoritaires, une partie des Suisses aussi, avec la Fédération jurassienne qui a créé un ami de Bakounine, James Guillaume. Les Italiens, eux, ont fait sécession avant le congrès de la Haye pour revendiquer une option purement insurrectionnaliste. Et les Espagnols, qui constituent un peu l'exception, en fait, d'une organisation à la fois originale et efficace, puisque les Espagnols, qu'on classe dans le camp des anti-autoritaires, arrivent à fédérer à la fois une structure forte et décentralisée. C'est-à-dire que les groupes soient à la fois autonomes et en même temps qu'ils soient coordonnés, en tout cas qu'ils agissent un peu dans la même direction. Ce qui fait que l'international en Espagne, c'est un cas assez unique, devient clandestine au milieu des années 1870, en 1874. Elle a 30 000 membres à ce moment-là. Et quand elle redevient publique, alors qu'elle a vécu une période de clandestinité, elle a doublé le nombre de ses effectifs. Et avec des moments de guerre sociale assez intenses. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, ce qui va donner l'anarcho-syndicalisme, pour aller vite, hein, dans son organisation à la fois décentralisée et puis à la fois avec des mots d'ordre très virulents, hein, très de représailles sociales, allant jusqu'à prôner parfois des méthodes très extrêmes, arrive à continuer à fédérer dans un contexte de répression sociale, et arrive même à doubler des effectifs, puisque quand elle peut réapparaître au grand jour, la structure tient encore en place, quoi. Donc ils avaient une stratégie, les internationalistes espagnols, les ouvriers espagnols, c'est de dire réunissez-vous par petits groupes, pas plus de 8 ou 10, et réunissez-vous clandestinement, hein, dans le secret, mais aussi à la barbe des bourgeois. C'est-à-dire qu'ils investissaient aussi des centres catholiques d'action sociale pour faire des réunions, s'échanger des mots, enfin on peut imaginer toutes sortes de choses, quoi. Et puis bon, il y a des choses, l'État a essayé de jouer effectivement aussi sur la criminalisation, puisqu'il y avait l'épisode d'Amano Negra, et là je renvoie au bouquin qui est paru chez l'Échappée de Rosalinda, sur la Mano Negra, qui correspond à peu près à des groupes en Andalousie qui vont faire des actions de représailles sociales assez fortes, etc., mais qui correspond aussi à une stratégie de manipulation de montage policier de l'État espagnol à ce moment-là. Donc l'histoire de l'Espagne est assez à part, finalement, quoi. Et on verra d'ailleurs dans la durée du mouvement ouvrier espagnol sa radicalité, hein, jusqu'au franquisme, quoi, jusqu'à la guerre civile. En même temps, ouais, il y a des mouvements sociaux assez forts à la même période aux États-Unis. Il y a une grève de mineurs en Pennsylvanie qui a donné lieu au Molly Maguire, etc. Enfin, qui sont assez forts. Mais à ce moment-là, le conseil, c'est-à-dire le bureau international, est dans les mains de Sorge, je ne sais pas comment on dit, qui est un ami de Marx. Et finalement, ils n'en font rien. Jusqu'à ce qu'il y ait un congrès de dissolution en 1876, où elle a existé, elle a vivoté finalement cette internationale, et puis elle s'éteint, quoi, en disant on verra quelle forme ça pourra prendre dans l'avenir, notamment la forme. Puisque la forme, on a tendance à dire, enfin les historiens, et notamment les marxistes, ont tendance à dire que la forme qui a suivi l'internationale, c'est la constitution des partis nationaux, des partis ouvriers nationaux, des partis socialistes, d'abord socialistes, et différents partis ouvriers. Or, on voit qu'il existe encore à la fin des années 1970 une tentative de fédérer des groupes autonomes, de garder une structure fédéraliste. Mais comme elle a décidé d'abolir toute tentative de centralisme en abolissant le Conseil général, hein, qui est initié comme un bureau de correspondance, de mise en rapport, etc., et non pas comme un organe de gouvernement. Hein. Et à ce moment-là, bon, les anti-autoritaires, les anarchistes, on peut dire maintenant, puisque c'est le début du mouvement anarchiste, disent non, nous, pour éviter l'écueil d'un autoritarisme, on abolit le Conseil général, donc on se fédère entre groupes, entre groupes autonomes finalement. Quoi. Sauf que bon, voilà, il y a encore des débats à ce moment-là entre socialistes, légalistes et socialistes révolutionnaires, c'est le mot qu'emploient les anarchistes à l'époque, mais qui se heurtent aux mêmes incompréhensions, aux mêmes incompatibilités, quoi, finalement, la question de l'État, etc. Mais jusqu'à tard, en fait, dans le siècle, hein, jusqu'à la veille de la Seconde Internationale, qui sera l'internationale exclusivement des partis socialistes, même pas des syndicats, jusqu'à la veille de cette Seconde Internationale, il y a encore des anarchistes qui participent aux congrès ouvriers. Quoi. Les congrès ouvriers sont... Mais au fur et à mesure, les socialistes légalistes vont leur fermer la porte. Quoi. Et d'un autre côté, c'est aussi le début... De la propagande par la fait, ou la première propagande par le fait, puisque c'est le moment où apparaît ce terme-là, en disant que l'émeute, l'insurrection, l'attaque de la propriété, etc., sont des éléments de propagande. Donc doit servir à diffuser la révolte parmi les masses. Mais la dernière tentative de maintien de l'internationale anti-autoritaire, ou même la faire renaître, a lieu à Londres en 1881. Où là, il y a à la fois un peu des anciens de la Première Internationale et les nouveaux, quoi. Il y a Pouget, Louise Michel, Kropotkine, enfin, qui est un peu à cheval, mal attesté. Mais à ce moment-là, les discours sont tellement virulents que les tentatives d'organisation sont vaines. Et puis, en fait, ce qui va faire renaître un peu l'élan de la Première Internationale, mais sans la dimension internationaliste, c'est les débuts du syndicalisme révolutionnaire, quoi. C'est-à-dire de considérer la classe ouvrière indépendante des partis politiques, indépendante de la politique, et essayer de lui donner les moyens de son auto-organisation.
Il n'y a pas de programme, justement.
Non, là, il n'y a pas de programme, sauf à terme, le programme, c'est la grève générale, quoi. qui est déjà imaginé hein, dans la Première Internationale. Mais dans la Première Internationale, par exemple, la grève générale, ils appellent ça la grève universelle, je crois, est imaginée pour contrer les guerres, par exemple. L'idée de la Première Internationale, c'est aussi que les peuples et les ouvriers s'unissent contre les guerres dynastiques, contre les, contre la concurrence des capitalistes.
Sur Radio Galère, vous êtes toujours là. Et je vais retenter ma chance à ceux qui n'auraient pas bien compris. C'était un peu de bon Dieu ou du sens que diable. Et c'était pas du Bourdieu, mais pourvu que ça en diable. Ça, c'est une espèce de titre. Voilà, sinon, c'est un peu l'histoire. Voilà, c'est un peu de bon Dieu ou du sens que diable. C'est pas du Bourdieu, mais pourvu que ça en diable. Voilà. Et donc oui, tout ça pour dire, voilà, entre les investis, les indécis et les inspirés, donc voilà, une histoire, donc tout ça pour dire qu'il nous faudra bien un jour choisir notre camp. Voilà, c'est donc un texte contre la trilogie, et vous comprendrez peu à peu, et il s'agit là ni de justesse, ni de raison, mais peut-être de bon sens. Chacun le sien, mais avec certitude du sens. Et il nous faut tous avoir un sens de la vie. Et pour ça, on en a cinq sens. Bon, petit jeu de mots facile. Mais en tout cas, pour éclairer un peu tout ça, je vais me permettre une image. Un sémaphore à trois couleurs pour éclaircir ma pensée. Elle est là, la trilogie, les trois couleurs. Et donc, c'est après une longue marche à travers le temps, déjà parsemée de difficultés, de déserts et de jungles, de prairies et de pâturages, qu'une bouillonnante tribu perdue se retrouve à nouveau face à une montagne. Elle y est bloquée, apparemment depuis quelque temps, oscillant de discussions en palabres, de manières en mensonges, entre gravir la montagne ou la contourner, faisant de la vie des uns puis de la vie des autres, bah rien. Restant en fait sur place, après avoir rebroussé tous les chemins bien des fois, laissant la place aux feignasses. Mais la situation se complique ici, maintenant. Elle pourrit. Alors arrivent là les investis, qui depuis longtemps crient ensemble qu'il nous faut gravir cette putain de montagne, que de l'autre côté nous attend de vertes vallées où nous vivrons comme des rois. Qu'évidemment, la route sera dure, très dure, que beaucoup d'entre nous n'y survivront pas, mais que la force et la discipline, l'honneur et le courage nous feront gagner ce combat avec bravoure vers la victoire. Que notre survie tiendra dans l'obéissance et l'esprit de sacrifice. Que la sélection qui s'opérera nous rendra encore plus forts. Et que ce n'est pas le froid, le danger, ni l'hostilité de la mère nature qui nous arrêtera. On l'affrontera, on l'abattra. Et à tous les indécis de nous rejoindre pour suivre la route et s'offrir à l'histoire. Et une fois de l'autre côté, nous régnerons en maître sur ce qu'on en aura mérité. On chantera et on priera à la mémoire de nos morts, promettant de ne jamais les décevoir. Waouh, voilà, tout ça sur un ton chromé, galvanisé, un petit accent alsacien aurait pu aider. Tapons bien sûr dans les plus instincts de la bête qu'est l'homme, qui, acculé, mort. Mais il y a aussi les inspirés, qui depuis longtemps préparent ensemble un départ pour contourner cette putain de montagne, car de l'autre côté nous attendent de vertes vallées accueillantes. Qu'évidemment, la route sera longue, très longue, que nous allons tous souffrir, mais que l'envie et la solidarité, la sincérité et le courage nous feront traverser cette épreuve dans l'apprentissage vers l'accomplissement. bon, c'est un petit peu caricatural, mais que là, notre survie tiendra dans le partage et dans l'esprit d'équipe, que l'expérience que nous aurons vécue nous rendra encore plus forts, et que la chaleur et les embûches ne nous arrêteront pas, et qu'avec la tension de Mère Nature, on s'en sortira, on y arrivera. Et à tous les indécis, de se joindre à nous pour prendre la route et écrire l'histoire. Et une fois de l'autre côté, nous vivrons ensemble sur ce qui nous aura été offert, et on chantera, on dansera au futur que nous offrira et qu'on s'offrira à nous et à nos enfants, promettant de ne jamais décevoir. Waouh ! Là, le ton est convaincant, ni con ni vaincu, cherchant la passion de l'homme à ne pas être une bête. Peut-être est une erreur, mais donc voilà, on en est là. Pour l'instant, dans la tribu, les investis tentent d'enrôler quelques indécis. Quant aux inspirés, ils s'acharnent à les convaincre. Mais seuls les indécis iront au paradis. Alors, pour quand est le grand départ, personne ne sait. Mais il semblerait que ce soit les indécis qui vont tout précipiter. Et là vient de s'éteindre une ampoule de mon sémaphore. Mais une chose est sûre, on se retrouvera de l'autre côté. Alors un peu de bon sens. Que diable.
Ouais, chaîne des chaînes.
88.4 sur Radio Galère.